Et demain, quelles énergies? Alors, on ne peut pas évidemment réduire toute la réflexion sur notre avenir, l'avenir de notre société, de notre Terre. On ne peut pas réduire ça à la question de l'énergie. Mais inversement, il est hors de question, je crois, de s'intéresser au sujet de notre avenir, sans faire intervenir la question des sources, de l'utilisation, du renouvellement des énergies. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons préparé le festival, nous avons immédiatement pensé que, en partenariat avec Mendès France, il fallait absolument que nous demandions à quelqu'un de traiter le sujet. Et Mendès France nous a dit immédiatement, Monsieur Papon est la personne la plus compétente pour le faire. Et il a bien voulu venir nous parler de cette question-là. Monsieur Papon est un professeur, un physicien, qui était professeur à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris. Et il a été directeur général du CNRS. Il a été aussi d'ailleurs président directeur général de l'IFREMER, l'Institut de recherche sur la mer. Et il est particulièrement compétent pour nous parler de tout ce qui concerne l'énergie aujourd'hui, demain, après-demain peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je le remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler. Je remercie Mendès France pour ce partenariat et je lui laisse tout de suite la parole.
Merci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un micro, celui-là?
Okay.
C'est bon, c'est bon. En tout cas, merci de votre invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens ici à Poitiers cette année, en ce début de printemps, à participer à vos débats sur demain, voie publique. Et donc, je vais donner de la voix, si je puis dire, sur les questions d'énergie. Alors, j'avais donné un titre un peu compliqué à ma conférence que vous avez rétrécie, mais ça me va bien. La transition énergétique, ses enjeux géopolitiques, économiques, scientifiques et culturels. Je terminerai par là. Je ne vais pas rentrer, évidemment, dans un luxe de détails. Je n'ai pas le temps. Et puis, je ne voudrais pas quand même vous assommer en cette fin d'après-midi. Alors, voilà le plan de la conférence que je vais faire en essayant de la rendre la moins académique possible, une introduction pourquoi l'énergie est devenue aujourd'hui un problème de société et mondial, est-ce que c'est complètement nouveau, où est-ce qu'on en est dans le monde et en France s'agissant de consommation d'énergie, et puis demain, quelles contraintes allons-nous subir, subissons-nous déjà pour l'exploitation de l'énergie, son utilisation, etc. Est-ce que des ruptures sont possibles? Je suis scientifique, donc je vais m'interroger sur les changements techniques, les découvertes possibles qui permettraient de nous faciliter les choses dans la transition énergétique. Et puis, quelques mots de conclusion. Est-ce qu'on est à un carrefour pour l'énergie avec un petit regard historique? Bien. Alors, peut-être pas la peine d'épiloguer trop longtemps. L'énergie est devenue un problème de société, une question mondiale. C'est une évidence, on en parle souvent. Elle est indispensable à la vie pour faire fonctionner notre poumon, nos poumons, pardon, notre cœur, notre cerveau. Sans activité physique, un individu de poids moyen et d'âge moyen, il a besoin de 80 watts, sans rien faire, sans rien faire. Ou en m'écoutant. Bon. Ce qui est à peu près la puissance d'une grosse ampoule électrique, 80 watts, hein, c'est beaucoup. Dans ces 80 watts, il y en a 20% pour faire marcher le cerveau. Alors que le poids du cerveau, pour un individu normalement constitué, c'est 3 à 4% du poids, mais 20% de l'énergie, de jour comme de nuit. Donc on voit que c'est important. Elle est nécessaire à beaucoup d'activités sociales, économiques. Dans un frigidaire récent, sa consommation, c'est 200 watts en puissance. Ça veut dire, mais il ne fonctionne pas toute la journée, hein, bien entendu. Je monte dans la hiérarchie, plutôt l'échelle des puissances. Le TGV de la ligne Atlantique qui passe à Poitiers, la puissance des moteurs d'une rame, c'est 8 mégawatts, c'est-à-dire millions de watts, ce qui est énorme, hein, comparé à une ampoule électrique. Puissance d'un réacteur nucléaire français moyen, 1 milliard de watts, 1 gigawatt. Il y a des barrages qui ont cette puissance-là. Bon. Alors voilà pour les données. Un constat qui nous ouvre tout de suite, je dirais, à demain. Pendant le XXe siècle, notre consommation d'énergie, dans le monde bien sûr, a décuplé, ce qui est énorme, et avec un accroissement des inégalités dans la consommation d'énergie, et j'y reviendrai dans un instant, dans le monde. Peut-on continuer à ce rythme demain? Peut-on continuer à ce rythme dans le monde et avec quelle filière énergétique? C'est un problème de fond. Peut-on exploiter de façon durable l'énergie pour tous? Alors le mot durable, il est mis souvent à toutes les sauces. Hein. Mais est-ce que c'est un vrai sujet quand même? Et pour tous, et j'y reviendrai, s'agissant de demain. Alors on dit que l'énergie, on en parle depuis quelques mois en France avec cette loi sur l'énergie qui est en discussion au Parlement, elle n'est pas encore votée d'ailleurs. Mais en fait, c'est un problème qui est au niveau politique de l'État à peu près vieux d'un siècle. On a commémoré l'an dernier le centième anniversaire du déclenchement de la guerre de 14 et c'est la première guerre mondiale, mais qui a été mécanisée. On a utilisé des automobiles avec les taxis de la gare, de la marne, pardon. Les taxis de la gare, c'est difficile à trouver. Bon, mais à Poitiers. Bon, oui, c'est un lapsus freudien. Des camions, des chars, des avions pour la première fois. Tout ça, ça consommait du kérosène, du fioul, du gazole, etc. Et les alliés, la France et l'Angleterre, n'avaient pas, je dirais, de pétrole dans leur sous-sol. Hein. Les Allemands, guère plus d'ailleurs. Bien. Alors, 1917, les Américains viennent d'entrer en guerre. Clémenceau, qui devient président du Conseil, c'est un tournant de la guerre, envoie un message à Wilson en lui disant « Envoyez-nous de l'essence qui sera aussi précieuse, dit-il, que le sang de nos soldats pour la victoire finale. » Bon, hein, je cite. Wilson a répondu présent, il a envoyé des tankers, etc. Bon, traumatisés par ces affaires-là, les alliés ou les anciens alliés se sont dit comment avoir un approvisionnement énergétique en cas de coup dur. Donc, création en France en 1924 par le gouvernement de Poincaré de la Compagnie française des pétroles, donc à l'initiative de l'État, qui est devenue aujourd'hui Total, hein, la société Total. Et Total, enfin la France, qui le rétrocède à Total, reçoit le quart des actions d'une compagnie turque, la Turkish Petroleum, que les Turcs avaient créée avant la guerre de 14 pour exploiter le pétrole d'Irak. Donc on se partage les dépouilles de l'Empire ottoman dans les différents traités de paix et on prend une partie des actions. Les Anglais en ont pris un gros morceau, évidemment, mais on voit déjà l'Irak. Hein, l'Irak était exploité par les Turcs avant la guerre. Bon, je passe 1946, 45, 46, après la Seconde Guerre mondiale. Il faut de l'énergie pour reconstruire la France, création d'EDF, du commissariat énergie atomique, c'était après d'ailleurs Hiroshima, et puis aussi des charbonnages de France. 73, choc pétrolier, programme nucléaire français, et on arrive à aujourd'hui, hein, j'arrête là cette litanie, 2014-2015, on débat de nouveau en France d'une loi sur l'énergie qui a été, la transition énergétique, qui a été votée par l'Assemblée nationale en décembre, mais qui est, je crois, en débat en ce moment au Sénat. Alors, où en sommes-nous dans le monde pour la consommation d'énergie et qu'on appelle ce que j'appelle l'énergie primaire? Je la symbolise par cette vieille pompe à gazole qui doit dater des années 50. Hein. Bon, je crois avoir un vague souvenir de ce genre de pompe, mais c'est symbolique. Hein. C'est, je dirais, qu'est-ce qu'il y a dans la pompe à énergie mondiale? Dans le monde, on a consommé en 2013 12,7 milliards de tonnes équivalent pétrole dans la pompe à énergie. L'énergie primaire, c'est tout ce qu'on reçoit dans notre panier d'énergie avant de le transformer. Du pétrole avant de le faire passer dans une raffinerie, etc. Alors, tout n'est pas du pétrole dans la pompe. Mais on a pris pour habitude de convertir les différentes filières en pétrole. Si vous brûliez une tonne de charbon dans votre chaudière, ce que j'espère vous ne faites jamais, hein, mais on sait après tout pourquoi pas, hein, vous ne dégageriez que 70% de ce que dégagerait la combustion d'une tonne de pétrole. Donc on dit une tonne de charbon, enfin du bon charbon, est équivalent à 0,7 tonnes de pétrole. TEP, tonne équivalent pétrole. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la pompe à énergie? Ben, il y a du vrai pétrole pour 32%, il y a du charbon pour 27%, et cette proportion de charbon a tendance à réaugmenter depuis quelques années. Donc le charbon n'est pas forcément une énergie du passé comme on tend à le croire. Du gaz pour 21%, c'est la consommation mondiale. Hein. Des énergies renouvelables, du bois, des déchets végétaux, etc. Un peu de biocarburant, ça fait 11%, ce qui n'est pas négligeable. Du nucléaire, c'est évidemment de l'électricité pour 5%. de l'hydraulique, enfin l'hydroélectricité pour 4%. Si je fais la somme pétrole plus charbon plus gaz, ça fait 80%. J'arrondis pour que ça fasse 100% le total, mais ce qu'on appelle les énergies fossiles non renouvelables, c'est 80%. Et ça, on voit déjà un problème sur lequel je vais revenir dans un instant. La France, qu'est-ce qu'elle consomme ? En énergie finale, c'est-à-dire ayant fait passer le pétrole dans les raffineries, le charbon dans les centrales thermiques, etc., de l'électricité pour 24%, quoi, disons un quart, dont les trois quarts sont nucléaires, des produits pétroliers, c'est-à-dire de l'essence, du gazole, du fioul, du kérosène, etc., pour 42%, du gaz naturel, hein, que symbolise ce tuyau de gaz en Russie ou en Sibérie, ça fait 23%. Et puis, il y a un résidu avec du charbon, du bois, de ce qu'on appelle de la biomasse, qui fait 11%. Donc, voilà le panorama. Là aussi, j'ai arrondi pour que ça fasse 100%, qu'on ne m'accuse pas de faire des erreurs. Bon. Alors, juste un commentaire, sans regarder trop les chiffres, sur ces couleurs-là, qui est l'évolution qui représente la consommation d'énergie primaire en France depuis 1970. 73, premier choc pétrolier. Le marron qui est là, qui en 70 représentait 80% de notre énergie, c'est le pétrole. Choc pétrolier, on décide, pour l'électricité bien sûr, de passer au nucléaire, ce qui représente le vert. Hein. Ce n'est pas d'énergie verte, hein, mais c'est du nucléaire plus de l'hydraulique. Hein. Bah, on voit que le vert, il a augmenté, c'était relativement faible en 70 et il fait à peu près 40-45% aujourd'hui. Le bleu, là, qui monte petit à petit, c'est le gaz naturel, hein, qui s'est substitué en partie au pétrole pour le chauffage et aussi pour les centrales thermiques. Et donc, ça pèse environ 15% aujourd'hui. Voilà l'évolution. Simplement, on voit, sur non pas les chiffres, mais les couleurs, avec aussi une donnée qu'il faut avoir présente présente à l'esprit pour la France. Notre indépendance énergétique, on produit environ 51%, un peu de 50%, ça dépend des années, de notre énergie sur notre sol, je puis dire. Hein. Mais avec une partie importante qui est importée, avec un déficit de la balance énergétique française qui, l'an dernier, était de 55 milliards d'euros. C'est l'importation de pétrole, de gaz et de charbon. Une chute par rapport à 2013. En 2013, c'était 68 milliards, le déficit, forte chute à cause de la baisse du prix du pétrole, compensé négativement par la chute de l'euro, puisque tout ça, ça se vend en dollars. Bon. Mais simplement, il faut avoir ça présent à l'esprit. Bon. Alors, où est-elle consommée, cette énergie en France ? Pour un quart dans l'industrie, je mets 3% d'agriculture, c'est le pétrole, enfin pas le pétrole, le gazole des tracteurs, le transport 32%, et puis le bâtiment 43%. Alors le bâtiment, ce sont nos appartements, nos maisons, les bureaux, un amphi comme celui-ci, qui est chauffé, peut-être pas aujourd'hui, mais où il y a de la lumière, etc. C'est un poste très important. Très important. Pratiquement dans tous les pays occidentaux, c'est le même pourcentage, un petit peu plus dans les pays du Nord parce qu'il fait plus froid. Et c'est un poste, je n'y reviendrai pas beaucoup, mais juste un petit peu, sur lequel on peut faire des économies. Les économies d'énergie, parce que avec les techniques dont on dispose, il est possible de faire des économies. Le problème, il est financier. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors demain, s'agissant d'énergie, de quoi demain sera fait. Alors, pour l'énergie, disons, on est soumis d'ores et déjà, et on sera soumis, bon, je vais simplifier les choses, à trois contraintes majeures. Trois contraintes majeures. La première, c'est, ou une limitation, la disponibilité des ressources énergétiques. Vous voyez cet individu qui est juché sur un baril de pétrole avec des jumelles, il regarde ce qui se passe pour voir combien de pétrole il nous reste, etc. Le pétrole, on dit, pétrole conventionnel, 40 à 50 ans de ressources avec le rythme de consommation actuel. Chaque année, on consomme un peu plus de pétrole qu'on en a découvert, disons, l'année d'avant. Donc, ça s'épuise. On n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, mais bon, c'est en gros les prévisions. 40-50 ans, c'est pas très vieux. Enfin, je veux dire, c'est pas très loin, hein, compte tenu des investissements qu'il faut faire, etc. Le gaz naturel, il y a 4-5 ans, on en dit 60 ans. Maintenant, on dit plutôt 100 ans, en mettant dedans le gaz de schiste. Hein, le gaz de schiste qui a provoqué un changement, notamment aux États-Unis. Le charbon, minimum 130 ans, minimum. Hein, je ne dis pas qu'il y en a partout, mais il y en a encore en France. Hein, des mines qui n'ont pas encore été exploitées dans la Nièvre. Bon. L'uranium, on dit 80 ans, ça dépend un peu du coût des minerais, peut-être 80-90. Ce qui n'est pas beaucoup, compte tenu du fait que la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est 40 ans qui peut être étendue à 60. Hein, donc, c'est pas beaucoup. Donc, se posera tôt ou tard le problème de l'approvisionnement en uranium. Et puis, à travers ça, il y a des risques géopolitiques. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail des choses, parce que le pétrole, en particulier, il ne se trouve pas partout. Il est inégalement réparti à la surface de la Terre, ou dans le sous-sol plutôt, de la Terre. En particulier, les deux tiers des réserves de pétrole se trouvent dans les pays qui appartiennent à une organisation qui s'appelle l'OPEP, l'Organisation des producteurs de pétrole, et la moitié au Moyen-Orient, dans une zone du globe qui est particulièrement instable politiquement. Donc on voit un problème géopolitique. On a commencé à exploiter le pétrole de l'Irak après la guerre de 14, et je dirais les problèmes politiques perdurent dans cette région du Moyen-Orient. L'Ukraine, il y a un conflit depuis quelques années, exacerbé depuis quelques mois entre l'Ukraine et la Russie. Le motif principal, il n'est pas le pétrole, plutôt le gaz, mais néanmoins, les gazoducs qui transportent le gaz naturel de la Russie vers l'Europe transitent pour la plupart vers l'Ukraine, laquelle l'Ukraine ne payait d'ailleurs pas ses factures de gaz à la Russie, d'où, je dirais, des conflits, etc., bon, qui sont amplifiés depuis lors, hein, avec la partie russophone de l'Ukraine. Et puis, la situation change. Les États-Unis exploitent le gaz et le pétrole de schiste et par conséquent, maintenant... Ah ouais, c'est peut-être... Le gaz et le pétrole de schiste, et donc s'affranchissent en grande partie des importations de pétrole et de gaz. D'où la réplique de l'Arabie saoudite, qui a probablement plusieurs motifs, récente, hein, ça date de l'an dernier, de ne pas, en période de crise économique, limiter sa production de pétrole. Et ce qui a fait chuter immédiatement le cours du baril de près de 50% en 6 mois. Avantageux pour nous, mais catastrophique pour un certain nombre de pays, notamment Nigeria, Algérie, etc. Alors, est-ce que c'est durable? C'est pas évident. L'autre motif, sans doute, de l'Arabie saoudite, c'est embêter la Russie et l'Iran, avec lesquels ils sont en conflit d'influence permanent dans le Golfe. Bon, j'arrête pour la géopolitique et les ressources. Deuxième contrainte, le défi climatique. Le défi climatique, 23e forum citoyen climat, on en parle. C'est illustré par cette photo d'une centrale électrique en Pologne, qui est relativement récente. Vous voyez, ça fume dans le fond. Au premier plan, vous voyez des petits wagonnets ou camions qui s'agitent. C'est une mine à ciel ouvert de charbon ou de lignite qui va alimenter directement la centrale thermique polonaise. Les Polonais produisent 90% de leur électricité avec du charbon. Bon. Alors, les fumées, je dirais, de l'usine illustrent, je dirais, les constats des climatologues. Ils disent que la consommation de combustibles fossiles, en particulier du charbon, provoque le réchauffement climatique parce que cette combustion envoie du gaz carbonique dans l'atmosphère, qui est dans les fumées, là, et qui se concentre dans l'atmosphère en partie et va absorber ce gaz carbonique, le rayonnement infrarouge de la Terre, et ça réchauffe. Bon, hein, je simplifie les choses. J'ai vu que vous avez une conférence sur le climat dans votre programme. Et ils nous disent on risque un réchauffement de la planète, compris, disons, entre 2 et 6 degrés, entre les débuts de l'âge industriel, 1800 ou 1820, et la fin du siècle. Ils ont raffiné un peu, l'année dernière, leur modèle, et ils disent entre 1985 et 2100, probablement un réchauffement 0,3 degrés et 4,8 degrés, avec une forte probabilité que ça soit entre les deux. Alors pourquoi cette fourchette ? Ben, il y a une incertitude sur le gaz carbonique qu'on va continuer à envoyer dans l'atmosphère. Je vais y revenir dans un instant. Et puis aussi le fait que les modèles climatiques, bon, il y a quelques incertitudes. On ne comprend pas totalement le rôle des nuages, etc. Donc ça, c'est un problème majeur. En débat politique depuis quelques années, a commencé à la conférence de Copenhague en 2009, organisée par l'ONU, où les chefs d'État se sont réunis et ont dit ah, « pas de problème, il faut limiter à 2 degrés le réchauffement climatique », puis ils sont partis, bon, sans dire comment il fallait faire. Et chaque année, on recommence, dernière en date, conférence de Lima sur le climat, en décembre 2014, et puis perspective, et la presse en parle souvent, conférence à la fin de l'année, fin novembre, début décembre, à Paris ou au Bourget, pour essayer d'arrêter ou de poser les bases ou un accord sur un traité climatique qui limiterait les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et c'est en débat actuellement, je dirais, dans les chancelleries, du côté français, même au premier international, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui s'en charge. Bon, troisième point, le développement des pays émergents. Pays émergents d'Afrique, de l'Inde, la Chine, etc., encore que certains émergent depuis longtemps, comme la Chine, qui est quand même une ancienne puissance. Alors là, il y a un constat, ce sont les très fortes inégalités dans les consommations énergétiques qui ont augmenté, en particulier au cours du XXe siècle. Je donne là quelques chiffres, sans rentrer dans le détail des choses. En France, consommation d'énergie et en équivalent pétrole, 4 tonnes équivalent pétrole par habitant. Ça ne veut pas dire que chacun de nous consomme 4 tonnes de pétrole, mais moyenné avec le chauffage, les produits alimentaires, etc., etc., ça fait 4 tonnes par habitant en équivalent pétrole. J'ai mis entre parenthèses qu'on émet en gaz carbonique, bon, je pince. Les États-Unis, 7 tonnes, ça veut dire presque le double. Les Suédois, un peu plus que nous, bah, parce qu'il faut qu'ils chauffent, il fait froid chez eux, hein, même s'ils économisent de l'énergie. Et puis alors, l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara, 0,5 tonnes équivalent pétrole par habitant, à peu près 10 fois moins que nous. Alors il y a des inégalités, l'Afrique du Sud consomme un peu plus, hein, l'Éthiopie, le Tchad, etc., un peu moins. Bref, ça fait 0,5. La Chine est à 2 tonnes équivalent pétrole par habitant, et ils émettent même plus que de gaz carbonique que nous, parce qu'ils utilisent du charbon, ils font aucun... Je dirais ils commencent à faire des efforts pour la sauvegarde de leur environnement, mais jusqu'à présent, ils ne gardaient pas, je dirais, au détail des choses. Un autre chiffre qui est assez illustratif, 1 milliard 300 millions d'habitants de la planète n'ont pas d'accès à l'électricité. Environ les 2/3 des Africains de la zone subsaharienne. Ce qui est énorme. Et donc, ces Africains, ils disent, bah, t'es bien gentil, mais nous, on veut de l'électricité. Donc, utiliser éventuellement du charbon, c'est peut-être pas bien. Des barrages, si on peut les construire. Donc, ça, c'est un problème majeur. Dernier constat aussi, 2 milliards 600 millions d'habitants utilisent une énergie très polluante pour faire la cuisine. Alors, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, cette énergie polluante, c'est du bois, de la paille, des déchets végétaux qui envoient, je dirais pas tellement de gaz carbonique, mais des poussières dans l'atmosphère. Et comme dans ces pays-là, c'est souvent les femmes qui font la cuisine, on dirait qu'en Occident aussi, hein, peut-être, mais enfin bon, avec leurs enfants, ça a des conséquences sanitaires assez importantes. Et selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y a environ 1 200 000 ou 300 000 de décès prématurés, notamment chez les femmes et les enfants, à la suite de problèmes respiratoires. Donc là, on voit que mal consommer l'énergie a aussi des conséquences, évidemment, non seulement sociales, mais sanitaires. Alors, l'énergie est un facteur clé du développement, je ne fais que me répéter, mais quelle solidarité allons-nous avoir avec des pays qui ont besoin d'énergie pour une planète qui, en 2050, compterait 9 à 10 milliards d'habitants. Et ça, c'est un problème qui probablement, pas probablement, très certainement, va être en débat à la conférence de Paris, peut faire éventuellement capoter les choses. Ou au contraire, si on trouve un accord pour aider ces pays-là, peut faciliter les choses. Ça, c'est probablement un point clé sur le débat énergétique. Alors, je résume tout ça par cette plaque de rue que j'ai prise en photo en Italie, en trichant sur la traduction du mot carboné, qui ne veut pas dire carbone en italien, mais charbon. La rue du carbone est devenue une grande avenue, elle va sans doute, ou elle pourrait se transformer en une impasse, à cause du réchauffement climatique, de l'épuisement inéluctable des réserves, et puis en arrière-fond, le problème que j'ai mentionné à l'instant, hein, du développement des pays émergents. Alors que faire ? Que faire ? Que faire, disait Lénine, hein, Lénine disait ça, que faire, et il disait l'Union soviétique, c'est les soviets plus l'électricité. Bon, il n'y a plus de soviets, mais ils ont encore l'électricité. Bon. Donc, c'est un problème, effectivement, qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète? Alors pour cela, des économistes, des spécialistes d'énergie font ce qu'on appelle des scénarios. On part point de départ, 2000, l'an 2000, et on va aller jusqu'à la fin du siècle en faisant des étapes. Donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est une organisation internationale dont sont membres tous les pays développés et dont le siège est à Paris, fait, comme d'autres d'ailleurs, des scénarios énergétiques. Le dernier qu'ils ont actualisé en novembre, et le suivant, et puis je me limiterai à cela, on part donc de l'an 2000 avec cette pompe à énergie, il y avait dedans 10 milliards de tonnes équivalent pétrole et puis 80% d'énergie fossile. On fait une étape vers la fin du siècle en 2040. 2040, c'est dans 25 ans. Hein. C'est pour l'énergie, ce n'est pas si loin que ça, parce qu'il faut faire des investissements. La pompe, elle a grandi, il y a plus d'énergie dedans. Il y a 15,6 milliards de tonnes. Hein. Bon, c'est compte tenu d'hypothèses économiques, d'hypothèses sur la démographie, etc. Mais elle a minci. Tout, c'est un peu symbolique, hein, ce que je raconte. Bon, elle a minci parce qu'il n'y a plus que 60% d'énergie fossile dedans. On a fait cet effort pour diminuer les énergies carbonées qui envoient du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc c'est, dans une certaine mesure, une rupture avec une transition vers moins d'énergie carbonée. Vers moins d'énergie carbonée. Et puis on peut continuer comme ça jusqu'à la fin du siècle, mais disons, prenons déjà l'étape 2040. Alors, ce scénario, on appelle ça un scénario, prévoit de diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre en 2050, on a vu une étape à 2040. En 2013, on avait 80% d'énergie carbonée dans la pompe à énergie, donc 20% d'énergie renouvelable et de nucléaire. En 2040, on passerait à 40% d'énergie non carbonée, ce qui veut dire diminuer l'intensité énergétique, faire des économies d'énergie, consommer moins de charbon, qui envoie non seulement du gaz carbonique, mais aussi des poussières dans l'atmosphère. Augmenter les énergies renouvelables, peut-être le nucléaire, peut-on le faire après Fukushima ? Point d'interrogation, j'y reviendrai dans un instant. Développer les biocarburants, etc. L'Union européenne a dit, bon, bah, on va se couler, si je puis dire, dans ce moule. Dernier point maintenant, parlons quand même un peu de la France, avant de parler, je dirais, des ruptures scientifiques. Il y a donc une loi, je le disais, en débat depuis l'année dernière au Parlement. Elle prévoit de réduire de 30% la consommation d'énergie fossile en 2030 par rapport à 2012, de diviser par 2 notre consommation d'énergie en 2050 par rapport à 2000, ce qui est énorme. Hein, diminuer notre consommation d'énergie de 50%, donc de moitié, hein, entre 2012, donc il y a 2 ans, et 2050, donc en à peine 40 ans, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Bon. Passer le nucléaire de 75% à 50%, ce qui veut dire faire progresser la part des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, donc consommer plus d'électricité, je vais y revenir dans un instant, et puis un petit point sur lequel j'insiste et qui est un peu en quelque sorte un rebondissement par rapport à ce que je disais sur les énergies pour utiliser dans les bâtiments, faire un effort de rénovation thermique des bâtiments, très important, parce que là, on fera des économies d'énergie, de gaz, éventuellement d'électricité. On se chauffe de moins en moins au fioul, mais ça subsiste quand même, avec un objectif de rénovation de 500 000 logements hein, par an, à partir de 2017, on est à peine à 100 000 par an. Techniquement, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. On sait faire. Mais ça a un prix, ou un coût. Les estimations des caisses dépôts, des dépôts et compagnies, c'est environ 20, minimum, en moyenne, hein, 20 000 euros par logement. Ça fait un minimum de 10 milliards. De 10 milliards qui seront évidemment à payer par les particuliers, sauf les offices d'HLM. Hein, ce qui est en période de crise économique pas facile à faire. Pas facile à faire. Bon, j'insiste sur ce point parce que c'est là où on peut faire des économies d'énergie et c'est, je dirais, pour la transition énergétique, même si ça coûte cher, une solution probablement plus efficace que s'équiper en énergie solaire ou en éolienne. Bon, j'y reviendrai dans un instant. Alors maintenant, est-ce que des ruptures scientifiques, techniques sont possibles ? C'est-à-dire des découvertes, des innovations qui nous faciliteraient cette transition énergétique dans le monde et en France. Dans le monde et en France. La donne énergétique, elle est bien établie depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Hein. On utilise du charbon depuis trois siècles, du bois depuis Mathusalem. Hein. Mais de temps à autre, il y a des changements. Des découvertes scientifiques ou des innovations qui provoquent des vraies ruptures. Ça a été le cas au XVIIIe siècle avec l'introduction du charbon, dont on connaissait l'existence depuis longtemps en Europe, hein, les Chinois encore depuis plus longtemps, comme substitut partiel au bois, et puis concomitamment, presque en même temps, dans les années 1750, l'introduction de la machine à vapeur, hein, qui utilisait du charbon. Alors ça, c'est une vraie rupture. C'est une vraie rupture hein, de mode de consommation de l'énergie. On utilise le charbon, la combustion du charbon pour faire du travail avec une machine. Et ça, c'est une rupture qui a eu en même temps des conséquences sociales et économiques parce que ça a ouvert la voie à la révolution industrielle. Bon, j'insiste aussi sur le fait que la machine à vapeur, c'est une innovation et qu'elle ne doit pas grand-chose à la science. Les perfectionnements, oui, mais c'est une innovation britannique ou écossaise hein, du début du XVIIIe siècle. Mais il existe de temps en temps, rarement mais de temps en temps, et je vais en signaler quelques-unes, des découvertes scientifiques qui sont à l'origine de nouvelles filières énergétiques. Ça a été le cas avec l'énergie nucléaire, découverte en 1938 de la fission de l'uranium à Berlin, qui a ouvert la voie à l'énergie nucléaire en passant d'abord par Hiroshima le 6 août 45. Dernière découverte en date, qui est relativement importante, 1955, la découverte de l'effet photovoltaïque dans le silicium, je vais y revenir dans un instant, ça a ouvert la voie à l'énergie solaire. C'est pas si vieux que ça, hein, 1955. Donc, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des changements de paradigme, des nouveaux concepts, des nouvelles théories hein, qui permettent, je dirais, d'innover en matière d'énergie. Alors, sur quoi faut-il travailler ? Il y a environ, je simplifie les choses, quatre grands chantiers où il faut faire marcher non seulement notre cerveau, mais les entreprises, faire des découvertes. C'est tout ce qui concerne les nouveaux carburants, en particulier les biocarburants, mais pas seulement, des nouveaux moteurs, thermiques ou électriques. Et on peut imaginer, plus qu'imaginer, c'est pas impossible d'avoir dans une petite dizaine d'années des automobiles avec un moteur thermique à 2 litres au 100. Il y a des travaux dessus, ce qui serait une économie considérable. Et puis, évidemment, les voitures hybrides, mais ça, on sait faire. Les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, je mets ce que l'éolien est au point, j'y reviens dans un instant. Hein. Produire de l'électricité avec du nucléaire, on sait faire, mais est-ce qu'il y a un nouveau nucléaire possible pour la fission et éventuellement la fusion ? Et puis, un problème majeur, qui est le stockage, la distribution et la gestion de l'électricité, qui est un problème majeur pour les énergies renouvelables et leur utilisation à haute dose. Alors, quelques mots sur les énergies renouvelables avant de donner deux, trois coups de projecteur. Bon, les énergies renouvelables, il s'agit de produire de l'électricité en tenant compte du fait que la source est intermittente. La nuit, les centrales solaires, les panneaux photovoltaïques, ils débitent pas de courant électrique. Les éoliennes, en revanche, elles tournent la nuit. Mais s'il n'y a pas de vent, elles ne tournent pas. Donc, ce sont des sources intermittentes, ce qui est un problème majeur. Problème majeur, et je vais y revenir dans un instant. L'éolien est au point. Il est au point. il est presque rentable, l'éolien terrestre, il est presque rentable. Dans 3-4 ans, le kilowattheure produit par des éoliennes en France sera compétitif avec le kilowattheure produit par du nucléaire ou des barrages. Bon. On sait construire des turbines d'une puissance de 10 MW, qui est l'équivalent, même un peu plus, de la puissance des moteurs d'une rame de TGV. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre une éolienne sur un TGV, mais on voit les progrès qu'on fait. En revanche, l'éolien offshore n'est pas encore rentable. Pas encore rentable, il pose pas mal de problèmes, notamment d'entretien des éoliennes en mer, etc., et c'est peut-être pas de mal avec. Mais l'éolien terrestre l'est. Donc il n'y a pas besoin de rupture scientifique ou technique. Quelques progrès ne feront pas de mal, mais bon, c'est pas majeur. En revanche, il y a un effort très important à faire sur le solaire, sur l'énergie solaire, parce qu'il n'est pas encore rentable. Les coûts de production du kilowattheure sous nos latitudes sont de 4 à 10 fois plus élevés que le kilowattheure nucléaire ou barrage. Il va probablement être rentable en Californie dans quelques années. Dans le sud de l'Espagne, les Espagnols disent que l'été, où il y a un éclairage maximum, il fournit des kilowattheures à leur centrale à peu près compétitive avec les turbines à gaz. Bon. En revanche, le solaire thermique, c'est-à-dire pour produire de l'eau chaude, il est rentable et complètement sous-utilisé en France. Beaucoup plus utilisé en Allemagne, alors qu'ils ont moins de soleil que nous. Donc là, il n'y a donc pas nécessité de rupture technique, mais probablement, des bonifications pour les prêts, pour s'équiper, etc., etc. Bon, il y a une croissance forte qui est prévue pour l'éolien et le solaire, en France et dans le monde. Sur les énergies marines, ça reste très aléatoire, très aléatoire, en débit de la grande marée du siècle. Bon, donc ça reste aléatoire. Alors maintenant, quelques coups de projecteur, parce que je ne veux pas abuser du temps, sur des ruptures possibles. Biocarburant. Vous savez tous qu'on peut utiliser l'alcool produit à partir de canne à sucre, de blé éventuellement, de maïs, c'est ce qui illustre cette diapositive. Le maïs, c'est de l'amidon. On sait le transformer avec une enzyme en alcool. On fait fermenter le sucre, le glucose, en éthanol. C'est vieux comme Mathusalem. Ça marche. Et on peut le mélanger à l'essence jusqu'à 10% sans changer le réglage du moteur. On peut faire la même chose avec des huiles végétales mélangées au gazole. C'est le biogazole. Ça marche. Le problème, c'est que quand même, il n'est probablement pas raisonnable d'utiliser une biomasse à finalité alimentaire, du maïs par exemple, du blé, voire de la canne à sucre, pour faire des carburants, alors qu'on va connaître sans doute des crises alimentaires très sérieuses dans les années qui viennent. C'est probablement pas décent, disons. Bon. Et d'ailleurs, ça a provoqué aux États-Unis l'utilisation assez massive du maïs pour faire des carburants, de l'éthanol, une augmentation du cours du maïs. Bon. Alors il y a une autre possibilité que pointe la flèche verte, c'est d'utiliser la cellulose, qui est l'enveloppe végétale, les rafles de maïs, la paille, parce que la cellulose est un sucre assez compliqué, qu'on peut couper en petits sucres, si je puis dire, en glucose avec une enzyme, on fait fermenter, ça donne de l'alcool. Le rendement n'est pas extraordinaire. Je parle sous votre contrôle, puisqu'il y a des biochimistes dans la salle. Le rendement n'est pas extraordinaire. Néanmoins, il y a plusieurs usines prototypes dans le monde qui fonctionnent pour voir comment ça marche. Il y en a une en France, à Pomac-le-Bazancourt, près de Reims, dans la Marne. Ça marche. Rendement pas extraordinaire. Alors, y a-t-il une rupture possible, scientifique ? Oui, il y en a une. Il y en a une qui consisterait à faire la synthèse complète du génome d'une bactérie ou d'une algue ou d'une levure. Le génome, je rappelle, c'est l'ensemble des gènes d'un être vivant, qu'il s'agisse du maïs, de votre chat ou de nous-mêmes. Et ces gènes, ils pilotent dans la cellule la synthèse de molécules intéressantes ou pas. Donc on peut faire la synthèse complète à partir de petites fractions d'ADN qu'on raboute les unes aux autres, je simplifie les choses, les reprogrammer éventuellement, les injecter dans une cellule dont on a prélevé auparavant le génome naturel pour que la cellule puisse faire une synthèse de molécules intéressantes, par exemple de l'alcool, voire des hydrocarbures ou des enzymes pour dégrader la cellule. Et ça, c'est fait. Je veux dire, la percée scientifique et technique, c'est 2009-2010, ce qu'on appelle la biologie synthétique, c'est de faire des génomes synthétiques et artificiels. Alors, expérience récente qui date d'octobre 2013, une équipe coréenne a modifié, n'a pas fait la synthèse complète, mais modifié deux gènes d'une bactérie très simple, enfin classique, Escherichia coli, qui a produit directement des hydrocarbures. Alors le rendement, il n'est pas terrible, mais on voit qu'il y a des perspectives de fabriquer de façon, par modification artificielle de cellules, de fabriquer des carburants, des biocarburants. On ne produira pas tous les biocarburants par cette voie-là, peut-être 20%, peut-être 25%. Quand ? Probablement pas avant 2030. Mais on voit que c'est une rupture possible qui modifierait en partie, je dirais, le panorama. Alors là, on franchit la frontière entre l'artificiel et le naturel, hein, ce qui pose d'autres problèmes souvent débattus. Le solaire photovoltaïque. Le soleil nous envoie 6000 fois donc, notre énergie quotidienne. On n'utilise qu'un 6000ième donc, de l'énergie qu'il nous envoie, en particulier pour produire de l'électricité. Ce que représentent ces panneaux solaires, enfin cette photo de panneaux solaires dans un désert. Ces panneaux solaires sont constitués d'un matériau qui s'appelle le silicium, qui est un semi-conducteur classique, hein, qui constitue les puces de nos ordinateurs, les téléphones portables, etc. Donc c'est un matériau qui est maintenant classique. Il y a des progrès à réaliser. Le coût des matériaux chute depuis 5 ans. Mais le rendement, il est au maximum de 25%. En mettant une plaque métallique pour réfléchir le soleil, enfin la lumière, hein, qui a traversé le matériau. C'est pas qu'on s'y prenne mal, mais le silicium n'absorbe qu'une partie du rayonnement lumineux. C'est-à-dire les petites particules de lumière frappent le silicium, éjectent un électron qui débite dans le circuit électrique. On sait comment ça marche, découvert 1955, mais le rendement n'est pas bon. Alors qu'à cela ne tienne, on peut utiliser d'autres semi-conducteurs, comme par exemple, j'en ai indiqué deux ou trois, là, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est dans le bas, l'arsénure de gallium, qui est utilisé dans un certain nombre d'installations, le tellurure de cadmium, manque de chance, c'est que le cadmium et l'arsenic, c'est évidemment toxique. Mais personne ne mange des cellules photovoltaïques. Hein. Bon. Mais c'est pour la fabrication. Ils absorbent une autre partie du spectre lumineux. Donc si on superpose avec le silicium, on peut avoir des rendements de 40%. Oui, mais ça coûte deux fois plus cher. Donc là, ce n'est pas vraiment une solution idéale. On peut faire, on sait que ça marche, des matériaux plastiques qui sont semi-conducteurs. C'est beaucoup moins coûteux. Rendement 10 à 12%. Donc on n'est pas encore au silicium. Et puis, il y a des percées. Il y a des percées récentes, hein, je mets 2015, c'est donc début de cette année, un matériau, je ne rentre pas dans le détail des choses, qui est classique, qu'on appelle une perovskite, qui est un oxyde, un métallique, qu'on a un peu modifié. Et là, le rendement sur lequel on travaille depuis 2-3 ans, février ou janvier plutôt, 2015, 20%. Donc on rejoint le silicium. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, parce que ça marche dans un laboratoire, mais il faut que ça marche en usine, tout ça. Hein. Mais on voit là qu'il y a des percées possibles. Avec, il ne faut pas l'exclure, la possibilité d'avoir des nouveaux phénomènes pour, je dirais, exploiter l'énergie solaire. Le nucléaire, j'en dis quelques mots. Quel est l'avenir du nucléaire après Fukushima, sachant que les réserves d'uranium sont de 80 à 90 ans. En France, on produit 75% de notre électricité avec du nucléaire. Y a-t-il une alternative à l'uranium ? Oui. C'est un autre métal qui est fissile, qui est dans la filiation, si je puis dire, de l'uranium, et qui est produit dans un réacteur à uranium, hein, lors, je dirais, de la fission du plutonium, hein, et de la fission d'uranium. Et ce plutonium, produit au sein du réacteur, pourrait être réutilisé dans d'autres réacteurs. Je simplifie, avec une charge de combustible en uranium, on pourrait faire au minimum 10 charges de plutonium pour d'autres réacteurs. Ce n'est pas un miracle, hein. C'est les lois de la chimie nucléaire. On n'utilise pas pour l'instant, sauf mélangé à de l'uranium dans les centrales françaises, et aussi c'était le cas à Fukushima. Ce n'est pas là l'origine de l'accident. Hein. Bon. Le problème, c'est que le cœur du réacteur est très concentré. Il faut extraire l'énergie du réacteur, enfin la chaleur, et ça, c'est pas une petite affaire. Il faut s'assurer, on sait que ça marche, il y a eu des prototypes avec pas mal de difficultés d'ailleurs, il faut s'assurer qu'il y a des bonnes conditions de sûreté pour le fonctionnement de ce type de réacteur. Réponse, pas avant 2030-2040, en France ou dans le monde. Hein. Il ne faut pas exclure non plus qu'on puisse mettre au jour une nouvelle théorie de la matière et de l'énergie, un peu comme l'avait fait Einstein en 1905, hein, qui a montré l'équivalence entre la masse et l'énergie, qui remettrait en cause partiellement les théories actuelles ou les concepts actuels et déboucherait sur, je dirais, un nouveau nucléaire. Il ne faut pas l'exclure, pas avant 40-50 ans. Hein, pas avant 40-50 ans. Donc ça, c'est du très, très long terme ou de l'après-demain. Et puis, il ne faut pas exclure non plus qu'on puisse un jour parvenir à réaliser à une échelle industrielle la fusion thermonucléaire. Ce n'est pas encore dans les cartes. Alors, il y a un point clé, et je termine par celui-là, qui est le stockage de l'électricité. Il est essentiel pour les énergies renouvelables, comme je l'ai dit, les éoliennes, quand il n'y a pas de vent, ça ne tourne pas. Les panneaux solaires, ils ne marchent pas la nuit, donc il faut stocker l'électricité produite pendant la journée par des panneaux solaires ou par des éoliennes la nuit quand on n'utilise pas le courant électrique. Et avoir aussi des dispositifs de batteries diverses et variées pour les automobiles électriques, ce qui existe déjà, mais qui soient relativement satisfaisantes. Alors j'illustre ça par ces difficultés, ces deux photos de voitures électriques hein, qui sont séparés par un siècle de distance. La première, en haut, les années 1890, une voiture électrique, belge d'ailleurs. Son inventeur l'avait appelée la jamais contente parce qu'il fallait toujours recharger sa batterie, enfin ses batteries. 20-30 km d'autonomie, batterie au plomb. Mais c'est la première voiture qui a franchi en 1899 100 km à l'heure sur route. Et là, on a dit, ça c'est une révolution. C'est l'avenir de la voiture, c'est la voiture électrique. Des gens comme Edison ont dit, ah bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Bon, en fait, ils sont trompés au moins d'un siècle. C'est pas que ça marchait pas, mais 20 km d'autonomie, avec des recharges de tout le temps, à l'époque, ça tenait pas la route, hein, c'est le cas de le dire. Voiture du bas, c'est une voiture de sport américaine, fabriquée en Californie par un constructeur qui s'appelle Tesla. C'est pas les grands de l'automobile, mais c'est un constructeur très innovant. C'est pas Ford, c'est pas General Motors. Et là, c'est une photo d'il y a 2-3 ans. Hein. Et il vend maintenant environ 14 à 15 000 voitures par an, voitures électriques, hein, pas forcément des voitures de sport. 400 à 500 km d'autonomie, ce qui est pas mal. Je n'ai pas été voir la voiture, mais je suis persuadé que dans le coffre, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre une valise. Bon. Hein, et c'est une batterie au lithium. Bon. Donc, progrès très important en un siècle, mais très lent. Hein, il a fallu un siècle pour passer à une densité d'énergie dans les batteries importante. Les constructeurs automobiles disent, ou de batteries pour automobiles, disent qu'il faut minimum stocker 200 watts par kilo pour les batteries, pour éviter d'avoir 400 kilos de batterie dans son coffre. Renault, qui vend deux voitures électriques, Zoé et Fluence, la Fluence, dit environ, affiche 160 km d'autonomie. Hein, 160 km d'autonomie, je pense que les batteries pèsent 300 kilos, mais ils ne vendent pas la batterie. Ils ne vendent pas la batterie parce que le prix de la batterie, c'est 6-7 000 euros. Et donc, c'est le tiers du prix de la voiture. Donc, il la loue. Il la loue. Mais 160 km, c'est relativement confortable. Ça permet peut-être d'aller de Poitiers à Tours, mais pas à Paris. Hein. Bon, mais donc, il faut faire. Là, on voit des efforts. C'est un point de blocage. Y a-t-il des ruptures possibles? Pas évident. Pas évident. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Bon, alors, je termine maintenant, j'en viens à ma conclusion un peu, par des réflexions, disons, sur la transition énergétique, mais pas uniquement, je dirais, par les aspects techniques, mais par les aspects, disons, sociaux, industriels, etc. Alors, l'histoire de l'énergie, je ne suis pas historien, mais bon, il faut s'intéresser aussi à cette dimension-là. C'est une suite d'évolutions avec des changements de paradigme, c'est un grand mot, disons, de concept ou de théorie ou de méthode très pratique. au fil des siècles, qui ont ouvert la voie des transitions énergétiques. Mais ça a pris du temps. Le monde gréco-romain, l'énergie, c'était le bois, mais aussi l'esclavage, et puis les animaux de trait. Il y avait, à la fin de l'Empire romain, disons 1er siècle après Jésus-Christ, environ 3 millions d'esclaves dans une Italie qui avait 10 millions d'habitants. C'est énorme. Hein. Bon, c'était, je dirais, la main-d'œuvre, mais aussi pour faire marcher des moulins, etc. Bon. En plus, il y avait une réticence de la Grèce et des philosophes grecs vis-à-vis de la technique et du travail en général. Moins chez les Romains. Moins chez les Romains. Qui avaient utilisé quand même un certain nombre de machines. On passe au Moyen-Âge. Là, et ça a été souvent, je dirais, méconnu par les historiens, beaucoup moins maintenant. Au Moyen-Âge, on a mis au point des techniques mécaniques extrêmement compliquées, complexes, avec les moulins, notamment les moulins hydrauliques, mais les moulins à vent, avec des engrenages, des poulies, etc., qui ont permis d'exploiter l'énergie des rivières de façon assez importante et avec, au plan social, un rôle très important des ordres monastiques. Les bénédictins, les cisterciens, qui étaient des vraies multinationales à l'échelle de l'Europe, parce qu'ils avaient des monastères partout, et ils diffusaient les techniques, ils avaient des terres qu'ils exploitaient avec des moulins au bord de l'eau qui leur fournissaient l'énergie. Là, je donne une photo qui n'est pas une photo d'un moulin. C'est de la région voisine, Touraine, maintenant ça s'appelle Centre Val-de-Loire, je crois. Bon. Sur l'Indre, vous avez ici un moulin, on voit encore dans la roue sur l'Indre, qui est à Èvre, à 10 km de Tours. Toute la vallée de l'Indre était équipée en moulins, parce qu'il y avait de l'eau en permanence, avec un grand débit. Et ce moulin dépendait d'une abbaye, l'abbaye de Cormery, qui est une abbaye bénédictine à 10 km de là, qui avait été fondée d'ailleurs par un conseiller de Charlemagne. Hein, et il faisait travailler des paysans, etc. Et ça, ils avaient une énergie pour faire de la meunerie, de la petite métallurgie, etc. Donc, dans toute l'Europe, d'ailleurs, les systèmes hydrauliques assez compliqués étaient, je dirais, un moyen d'exploiter l'énergie. Je saute des tas de siècles, j'en viens au XVIIIe siècle, ce que j'appelle le paradigme à la Carnot. On transforme de la chaleur en travail. Ça, c'est une vraie révolution. Hein, parce qu'avec les moulins, on transformait de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique d'un courant d'une rivière, en une autre énergie mécanique pour alimenter un marteau ou une roue d'une meunerie. Mais là, on change complètement. On change complètement. Et ça, c'est une révolution importante. On associe la machine à vapeur avec le charbon, et on a une espèce d'énergie qui est délocalisée avec, je dirais, pour alimenter des usines qui sont sur tout un territoire via les chemins de fer. D'ailleurs, Carnot, qui est un peu le fondateur de la thermodynamique, dans son livre, il a des phrases extrêmement prémonitoires. Il dit, vous allez voir, hein, je simplifie les choses, avec la machine à vapeur, le charbon, on va transformer, je dirais, l'organisation industrielle et les modes de vie. Il était extrêmement visionnaire, et c'est vrai. Alors, le pétrole, à la fin du 19e siècle, avec les moteurs à combustion interne, a complété le tableau, plus la production d'électricité, d'ailleurs avec des machines à vapeur aussi, mais avec le pétrole, le transport était beaucoup plus coûteux que le charbon, parce que le pétrole, il est souvent, je dirais, outre-mer, enfin, en Irak ou ailleurs. Et donc, il fallait des bateaux, il fallait des oléoducs, etc. Alors, ce que je veux dire par là, hein, j'arrêterai là, c'est que chaque transition énergétique, depuis, je dirais, l'Antiquité, elle a été associée à une organisation sociale et industrielle. Il fallait mobiliser des capitaux, créer des entreprises pour exploiter les mines de charbon, avec aussi des crises sociales. Fin du 19e siècle, grève dans les mines de charbon, des cheminots qui avaient un pouvoir de blocage évidemment, création des premiers syndicats, donc avec une contrepartie sociale et organisationnelle qui est extrêmement importante. Et puis aujourd'hui, avec ou disons après la Seconde Guerre mondiale, un rôle de l'État, en particulier dans le domaine du nucléaire, hein, qui est important parce que c'est une... L'énergie nucléaire, ce n'est pas une énergie comme les autres. Il faut, en quelque sorte, la contrôler. Elle a un aspect militaire, évidemment, non négligeable. Une photo ici, une dernière photo, c'est l'ancêtre des tracteurs, avec une machine à vapeur qui est exposée au musée du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, la machine de Tuxford, qui faisait 10 chevaux, c'est la première ou parmi les premiers tracteurs, avec motorisation à machine à vapeur. Bon, ça introduit petit à petit, je dirais, la mécanisation de l'agriculture, notamment d'abord aux États-Unis, puis plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, en France, hein, qui est en Europe, et qui a modifié évidemment complètement le système agricole, avec des grandes superficies et une mécanisation, pas avec des machines à vapeur, mais des tracteurs diesel. Donc ça, c'est une autre incidence sociale. Alors, la transition énergétique actuelle dont on parle, est-ce que on peut imaginer un nouveau paradigme, des nouveaux concepts au plan scientifique? Je viens de le dire, oui, ce sont les énergies renouvelables, sauf que ces énergies renouvelables, elles ne sont pas toutes nouvelles. L'éolien, c'est très ancien. Mais le solaire est relativement nouveau. Le solaire, exploitation pour faire de l'électricité, est relativement nouveau. Mais la question, c'est avec quelle technique? On retombe au débat précédent. Elles ont aussi un avantage, c'est qu'elles sont omniprésentes. Alors que le charbon, il est dans une mine, et on peut l'utiliser plus loin en le transportant par chemin de fer dans une usine, ou le pétrole, pareil. Mais les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, sont quasiment déconcentrées parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, il n'y en a pas la nuit du soleil, bon, d'accord, mais il y en a partout. Bon, je ne dis pas qu'il y a de l'énergie éolienne au milieu du Sahara. Bon, mais encore que. Oui, mais ça encrasse à ce moment-là les turbines. Bon. Donc, il vaut mieux pas. Elles sont déconcentrées ou déconcentrables. Donc, on peut imaginer, et c'est là tout le débat de la transition énergétique, une production d'électricité qui serait décentralisée, avec des entreprises locales, avec, je dirais, un groupe d'immeubles, un village particulièrement bien exposé pour fabriquer de l'énergie solaire, utilisée en partie localement ou envoyée pour le supplément, enfin le surplus, dans un réseau électrique. Mais ça suppose aussi l'existence, je dirais, d'entreprises nationales du style EDF ou d'autres qui pourraient aussi aider à faire passer les pointes. Les pointes de consommation en fin de journée, lorsque les cellules, enfin disons les centrales solaires ne débitent pas, ou s'il n'y a pas de vent. Donc là, il faut une espèce d'équilibre entre les deux. Donc on peut avoir une transition énergétique en France ou ailleurs que si on a une organisation industrielle, je dirais adaptée. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. Avec aussi la possibilité que des sociétés productrices de courant, pour ne parler que du courant, mais ça peut être valable pour les biocarburants, vendent des services. Et ça commence à se faire, c'est-à-dire on vous vend de l'électricité, puis en même temps un service pour faire des économies. Quand vous n'êtes pas là, sur votre portable, vous pouvez indiquer, il faut allumer la lumière dans le couloir ou fermer, ou faire démarrer le chauffage, etc. Ça commence à se faire. Mais ne risque-t-on pas aussi d'avoir des oligopoles qui se constituent, qui remplacent des EDF par des grandes sociétés? Je donne un exemple et je termine par là. Google, que vous connaissez évidemment, commence à se lancer dans l'électricité. Ils utilisent évidemment l'électricité, mais dans la production d'électricité. Ils ont investi 250 millions de dollars l'année dernière dans une société qui s'appelle SolarCity en Californie. Comme son nom l'indique, c'est produire de l'électricité solaire et en même temps vendre du service. Vendre du service, vous faites des économies d'électricité, je vous vends des économies d'électricité. Et c'est pas, je dirais, c'est pas des philanthropes. Donc là, il y a un débat qu'on ne peut pas éluder. La transition énergétique suppose une organisation sociale. Et dernier point sur lequel je n'ai pas le temps d'intervenir, mais on l'a vu à propos des biocarburants, tout le débat sur l'énergie du futur, l'énergie de demain, c'est aussi un débat sur la relation entre la technique et la nature, l'humain, la technique et la nature. L'exemple des biocarburants le montre, puisqu'on franchit la barrière entre l'artificiel et le naturel. Et ça, c'est un débat qui n'est pas complètement récent, mais je dirais qui est posé en termes nouveaux avec les progrès de la biologie appliqués éventuellement à l'énergie. Je conclue. La transition énergétique, elle est inévitable, elle se fera, mais elle prendra sans doute beaucoup plus de temps qu'on ne le dit. Ce sera probablement jusqu'à la fin du siècle, puis elle coûtera cher. Alors l'énergie de demain, je réponds à la question que vous posiez, ben, il faut faire feu de tout bois, si je puis dire, avec toute une série de filières, encore un peu de fossiles, oui, on en aura toujours besoin, des biocarburants, des énergies renouvelables, du nucléaire si on peut, mais de toute façon plus d'électricité et une organisation sociale et industrielle. Ça, c'est imparable. Et puis, ben, il faut faire des progrès. Hein, ça, je plaide pour mon ancienne chapelle, pour des ruptures, elles s'annoncent par de la recherche. Il faut abaisser aussi le coût des énergies renouvelables. Voilà. Merci de votre attention.
Merci, monsieur.
Merci beaucoup. Vous nous avez baladé dans le temps, un temps lointain dans le passé, un avenir finalement pas si lointain que ça, même si la fin du siècle, c'est demain, comme vous dites. Vous nous avez aussi promené au milieu des différents continents. Et nous avons, je pense, nous avons un petit moment pour des questions éventuelles, si les uns et les autres souhaitaient en poser. Alors, je vois déjà des mains qui se lèvent.
Merci, Monsieur Papon, comme d'habitude. Merci à vous.
Oui, je voulais vous demander si, à votre avis, la supraconductivité était susceptible d'apporter un peu de mix énergétique supplémentaire.
Je réponds tout de suite, non ? Ou j'accumule ? Non. Bon, la supraconductivité, c'est une propriété des métaux, ou de la matière, disons, pour simplifier les choses, découverte il y a un siècle. Le courant électrique, hein, je simplifie les choses, il circule sans perte dans une ligne électrique. Bon, le problème, c'est que c'est souvent ces matériaux à très basse température, dans des matériaux dont certains ne sont pas très faciles à manipuler. Pour l'heure, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule ligne électrique dans la banlieue de New York qui a été construite il y a 2 ou 3 ans, par une société française d'ailleurs, pour transporter du courant électrique sans perte. L'avantage, c'est que vous avez des lignes électriques et vous ne perdez pas 10 à 15% de votre courant en route. Mon sentiment, c'est que ça reste marginal. Le problème des lignes électriques est capital, hein, parce que c'est hein.
Le réacteur de Cresmalville n'était-il pas déjà de la génération 4 et ne pouvait-il pas être sauvé ou amélioré?
Alors, j'ai parlé de génération 4 du nucléaire. Disons, dans les centrales classiques actuelles, comme celle-là, j'ai regardé, c'est celle de Civaux, hein, bon, c'est ce qu'on appelle la génération 2. On utilise l'uranium dans une... Bon. On améliore les performances des réacteurs de l'actuelle génération qui fonctionnent avec de l'uranium faisant fonctionner à plus haute température. Ils sont un peu plus puissants et on améliore les conditions de sécurité. En particulier, on met ce qu'on appelle un radier, c'est-à-dire une base en béton assez épaisse pour que si le cœur du réacteur fond, comme c'est passé à Fukushima, ça ne passe pas à travers du plancher, je veux dire, non pas pour aller de l'autre côté de la planète, mais c'est ça l'idée. Et donc les réacteurs en cours de construction à Cresmalville, qui sont dits donc de troisième génération, fonctionne avec l'uranium, c'est pas donc la quatrième génération. Comme vous le savez, parce que la presse en parle souvent, et avec les difficultés de la société Areva, on en a parlé, c'est pas que c'est pas au point, mais disons les devis pour la construction de la centrale française de Cresmalville et de la centrale finlandaise construite par Areva ont été dépassés. Bon. J'ai dit Cresmalville, pardon, Flamanville, je m'excuse, Flamanville. Flamanville en Normandie. Pardon. Merci. Dans la Manche.
Oui, j'aurais 2 questions, si vous permettez. Premièrement, on est frappé par le fait que le soleil nous dispense 6000 fois, enfin, dépense 6000 fois l'énergie dont nous aurions besoin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'imagination en constatant que la seule exploitation que nous fassions du soleil, ce sont les piles à silicium, finalement? Vous n'avez pas parlé, mais peut-être est-ce que c'est parce que c'est obsolète, de ces monuments qu'il y avait autrefois, je crois, dans le sud de la France, qui concentraient les rayons du soleil au centre du bâtiment et qui permettaient de... Est-ce que c'est une chose obsolète?
Alors, j'ai parlé effectivement que des cellules photovoltaïques, j'ai montré une photo, mais il y a... qui ont l'avantage, les cellules solaires photovoltaïques, de fonctionner, même s'il y a de la lumière diffuse. Hein. C'est-à-dire que, bon, pas la nuit, bien sûr, mais s'il y a un peu de nuages, comme le jour de l'éclipse, ça marche quand même. Bon. Mais il y a une autre filière qu'on appelle la filière à concentration, qui a été expérimentée en France, en particulier près de Font-Romeu, près de Perpignan, bon, dans les Pyrénées-Orientales, mais qui consiste à concentrer le rayonnement solaire, donc la chaleur solaire au sommet d'une tour, si c'est une tour. Ça fait vaporiser un liquide qui va alimenter une turbine et fait marcher un alternateur. L'avantage de la filière, c'est que vous pouvez stocker la chaleur solaire. Il suffit d'avoir un liquide qui stocke la chaleur et l'utiliser éventuellement la nuit. Cette filière, c'est celle qu'ont choisi notamment les Espagnols en Andalousie, un peu les Américains en Californie. Il faut qu'il y ait beaucoup de soleil. Il faut qu'il y ait beaucoup de soleil pour concentrer la chaleur sur une tour ou des systèmes, je ne rentre pas dans le détail des choses, des miroirs cylindro-paraboliques. Bon. C'est là-dessus que misent les Espagnols. Je l'ai dit avec leur centrale, ils disent que dans certaines bonnes conditions l'été, ils produisent un kilowattheure à peu près équivalent en coût à celui des turbines à gaz ou des barrages. Bon. Mais il faut beaucoup de soleil. Il faut beaucoup de soleil. Même les Pyrénées-Orientales, c'est limite. Même les Pyrénées-Orientales, c'est limite. Le sud de l'Espagne, ça va. Le sud de l'Italie, ça va. Dans les scénarios énergétiques, ce n'est pas la filière solaire qui est privilégiée, c'est le photovoltaïque. Néanmoins, sa contribution ne serait pas négligeable à horizon de 30 ou 40 ans. Donc, vous avez raison, j'ai fait l'impasse là-dessus. Bon, parce que c'est à peu près au point. Hein, c'est à peu près au point. Le progrès à faire, c'est sur le stockage de la chaleur, mais ça, on sait faire, c'est de la thermodynamique classique.
Oui, ma deuxième question a trait à l'hydrogène. J'ai vu que vous l'aviez cité. Ouais. Nous étions impressionnés il y a quelques années par les essais faits en Islande d'alimenter les moteurs de voitures par de l'hydrogène. Alors si je me souviens bien, le problème de l'hydrogène, c'est qu'il fallait de l'énergie pour le produire et que seuls des pays volcaniques comme l'Islande avaient suffisamment d'énergie dans le sous-sol pour le fabriquer.
Alors, vous avez raison, l'hydrogène, on peut l'utiliser de deux façons dans une voiture. Soit, je simplifie, le faire brûler, donc c'est un moteur thermique, mais il faut le stocker sous une forme, mettons, soit liquide, soit gazeux, et donc vous utilisez un moteur thermique. Bon. Deuxième possibilité, c'est utiliser ce qu'on appelle une pile à combustible, qui a la propriété de faire l'inverse de l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, vous faites passer un courant électrique, ça décompose l'eau, de l'hydrogène, de l'oxygène. Une pile à combustible, vous recombinez l'hydrogène, l'oxygène, et vous produisez l'électricité. Le problème avec ces piles, c'est qu'il faut ce qu'on appelle un catalyseur, c'est-à-dire un facilitateur qui accélère la réaction de recombinaison. Et jusqu'à présent, pour les moteurs, disons, de voitures fonctionnant à des températures à peu près ordinaires, ce catalyseur, c'est le platine. Et ça, ça coûte cher. Et là, ça fait au minimum 50 ans qu'on bute sur cette question-là. La possibilité pour l'utilisation de l'hydrogène, ça serait effectivement le stockage de l'électricité. Parce que là, on peut, je dirais, s'affranchir de conditions de stockage à peu près en bonne source. Il faut aussi stocker l'hydrogène dans des bonnes conditions de sécurité, ce qui n'est pas une mince affaire, à très haute pression. Je passe sur les détails. Mais si on a une centrale électrique, non pas qu'on peut faire ça n'importe comment, mais il y a moins, je dirais, de contraintes que dans une automobile. Une automobile, si vous stockez sous votre siège de l'hydrogène, ça peut être gênant. Bon. Et que c'est un accident. Bon. Mais dans des centrales électriques, c'est solaire. Il y a une expérimentation en cours en Corse avec l'EDF. Donc, on produit dans la journée l'énergie solaire, on fait du courant, on décompose l'eau avec de l'hydrogène, qu'on stocke et puis qu'on recombine la nuit. Bon. Donc, ça, c'est une voie possible. Pour les automobiles, pour l'instant, c'est quand même un problème pour les raisons que j'ai dites. Et puis, il faut aussi des dispositifs pour fabriquer l'hydrogène pour la voiture, la recharge d'hydrogène, etc., etc. Alors, il y a beaucoup, des sociétés comme l'Air Liquide qui fabriquent depuis longtemps l'hydrogène pour des raisons industrielles qui se lancent là-dedans. Pas évident que ça soit rentable. Pas évident.
Oui. Il apparaît en conclusion que les ruptures scientifiques ne sont pas forcément prévisibles dans un temps relativement rapide, peut-être même excessivement long. Donc trop long pour assumer les difficultés qui vont se présenter maintenant, à savoir une énergie plus rare, une énergie plus chère, une énergie beaucoup moins abondante que celle qui a supporté la croissance depuis les 40, 50, 60 ans ou plus. Donc cette fameuse idée de croissance ne devra-t-elle pas être assez largement revue et corrigée en fonction de cette nouvelle donne ?
Bon, première remarque, hein, c'est votre question est pertinente. Première remarque, bon, il n'y a pas de crise énergétique dans la mesure où il n'y a pas pénurie. Il n'y a pas pénurie, même si le pétrole, ça se termine dans 40-50 ans. Bon, hein, il n'y a pas pénurie. Il y a abondance de charbon, mauvaise énergie, j'en suis d'accord, mais qu'on sait transformer en essence. Bon, hein. Donc, il n'y a pas pénurie à horizon de 40-50 ans pour les énergies classiques. Deuxième problème. Alors, prix de l'énergie, ça c'est sûr. Sauf qu'on n'avait pas prévu la baisse du pétrole l'année dernière. Hein, aucun des économistes n'avait pas prévu. Par décision de l'Arabie saoudite qui voulait tordre le cou au gaz de schiste américain, embêter les Russes et les Iraniens. On n'avait pas prévu. C'est probablement pas durable. Parce que les pays arabes, et en particulier l'Arabie saoudite, ils ont besoin des royalties pétrolières pour alimenter leur budget. Ils peuvent tenir, l'Arabie saoudite peut tenir peut-être 2 ans, mais les autres pays pas, et le Nigeria est en crise totale, l'Algérie également. Bon. Alors, ça m'amène dans ma réponse à dire, certes, dans les pays occidentaux comme les nôtres, probablement qu'on va vers des économies avec une croissance limitée, 1%, 1,5% par an. Le gouvernement se réjouit de dire « Ah ben cette année, on fera peut-être 1% de croissance hein. ». Mais ça, dans l'histoire économique, les périodes de grande croissance ont été très rares dans les pays occidentaux. Le Japon, il vit pas mal avec une faible croissance depuis 20-30 ans, avec très peu de chômage, des inégalités sociales qui se creusent, il est vrai. Bon. Mais alors, le reste de la planète, les 3 quarts de la planète, ou les 80% de la planète, mais nous, on a besoin d'énergie. On a besoin de croissance, parce que nous, les Africains, on sera 2 milliards en 2050. Le Nigeria, dont on parle de temps en temps, les démographes disent population du Nigeria en 2050, 400 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 150, 160 millions d'habitants. Donc, ils ont besoin de travail. Ils ont besoin d'énergie pour travailler. Donc, le problème, ce n'est pas pour rejeter sur les autres la responsabilité, mais le problème assez majeur qui va se poser à la conférence de Paris, c'est de dire, ah oui, mais ces pays-là, ils ont besoin d'énergie. Laquelle, comment et à quel prix ? Et on ne peut pas faire un discours sur le réchauffement climatique et l'avenir de la planète en faisant abstraction, je dirais, des besoins des pays en développement qui ont besoin, eux, d'une croissance. La croissance de l'Afrique, c'est 5 à 5,5% par an, hein, mais pas sur des bases industrielles. Il leur faut des bases industrielles. La Chine, c'est 6 à 7% et ils ont besoin de cette croissance. Je dirais que le problème, il est différent pour nous, les occidentaux, et puis les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Ah oui, comme ça. Bon.
Pardon. Moi, j'ai une question, là, s'il vous plaît. Pardon ? Oui, c'est-à-dire que moi, je me dis sur les énergies renouvelables, par exemple, solaire, tout ça. Mais, par exemple, je crois y a pas, on pourrait, la population pourrait réduire sa consommation la nuit, je veux dire. Ce serait pas un drame
s'il n'y a plus des... Bon, vous avez raison. Il n'est pas nécessaire de laisser, je ne sais pas comment ça se passe à Poitiers, mais allumer les immeubles de la Défense à Paris et ailleurs, à journaux, comme on dit. Ça, c'est vrai. Hein, ça, c'est vrai. Bon. Mais disons, les chiffres de consommation d'énergie, ça tient compte, je dirais, de l'alternance jour-nuit. Hein. Bon. Et de toute façon, on a quand même besoin d'énergie pour le chauffage, pas partout, mais dans beaucoup de climats, la nuit, même plus la nuit que le jour d'ailleurs, d'électricité pour faire marcher les réseaux de chemin de fer, etc., etc. Donc certes, on peut faire des économies, mais ça ne sera pas, je dirais, une réponse fondamentale à ces questions-là.
Oui, ce serait pour rebondir sur ces économies d'énergie, mais est-ce que ce n'est pas quand même possible de faire des économies d'énergie au niveau de l'habitation, des modes de transport, changer nos façons de consommer, de se mouvoir. Est-ce que c'est pas quand même au niveau du particulier une question qui peut se poser?
Le problème, je l'ai pas mentionné, je l'ai dit à propos des bâtiments. L'un des problèmes aussi majeurs pour, je dirais, l'organisation du monde, c'est l'urbanisation. C'est l'urbanisation parce que, alors je retombe encore sur l'Afrique, Lagos, 10 millions d'habitants aujourd'hui, mais 40 millions dans 30 ou 40 ans, avec, je dirais, des embouteillages massifs, comme il y en a déjà aussi dans des villes occidentales. Donc, on réglera, ou du moins, un urbanisme mieux fait, mieux planifié, et une partie de la réponse. Une partie de la réponse avec des transports publics, avec des banlieues qui sont aujourd'hui ni faites ni à faire, avec un urbanisme qui s'étend, et avec, dans les banlieues des grandes villes, des besoins en communication pour aller travailler, aller faire ses courses, qui font appel à la voiture par carence, à la voiture particulière, par carence des transports publics. Donc là, alors c'est facile à dire, il faut faire un urbanisme qui que quoi, mais c'est un problème qui est essentiel. Et puis, je l'ai mentionné, c'est dans le projet de loi, je pense que c'est une partie intéressante du projet de loi en débat, ce sont les économies d'énergie dans l'habitat. Ça, on sait faire. Les Allemands font mieux que nous. Font mieux que nous parce qu'ils ont un système bancaire avec une banque publique qui permet de prêter aux particuliers à des taux très avantageux pour faire des aménagements dans les maisons et les appartements. 500 000 logements par an, je l'ai dit, je le répète, en rénovation thermique, c'est au minimum 10 milliards par an à la charge des particuliers. Alors, il peut y avoir des systèmes fiscaux pour aider. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut faire des économies très importantes. Mais elles ont un coût. Alors, vous récupérez après, parce que vous consommez avec des doubles vitrages. Déjà, vous gagnez un ou deux degrés dans la température en hiver.
Bonsoir. D'abord, merci pour votre exposé qui montre que vous avez plein d'énergie. Juste un petit complément par rapport à vous, monsieur, qui disiez on n'utilise que 6 milliers, enfin, 1 sur 6 000 fois l'énergie qu'apporte le soleil tous les jours. Ce ne sont pas que les panneaux photovoltaïques qui en profitent, c'est... Les baies vitrées d'une maison exposée au sud sont beaucoup plus intéressantes qu'au nord. Un fonctionnaire de EDF Poitiers qui s'appelle Jean-Christian Lhomme, qui n'est plus fonctionnaire EDF maintenant, qui a son compte sur les thèmes énergétiques, a calculé objectivement que les appartements à Saint-Éloi exposés au sud consomment moitié moins d'énergie pour le chauffage que ceux qui sont au nord. Alors, quand on parle d'urbanisation, peut-être qu'il y a des choses à voir, à réfléchir sur les obligations d'orienter la façade absolument vers la rue si elle est au nord. Il y a des aberrations à la française qui sont dommages. Et puis, il y a quand même une autre source d'énergie qui est utilisée par le soleil, c'est toute la végétation. Alors, par contre, faire une monoculture du maïs, par exemple, pendant 6 mois sur le champ et de laisser le champ 6 mois à peu près nu, là, c'est du gaspillage d'énergie parce qu'on ne l'utilise pas. Bon, là, je ne m'étends pas là-dessus, mais ce que je trouvais intéressant, c'était le contraste entre votre première diapo et puis la dernière de conclusion. La première, vous dites, au cours du XXe siècle, la consommation d'énergie a été multipliée par 10. Est-ce que c'est tenable? Vous avez posé la question. Et à la dernière diapo de conclusion, vous ne faites ressortir que... une tendance qui est, on va trouver d'autres sources d'énergie pour pouvoir continuer de consommer. Et je suis content qu'il y ait deux personnes qui aient posé la question de est-ce qu'on peut continuer de consommer éternellement comme ça. Et je me rends compte de plus en plus nettement dans le débat sur la transition énergétique en France qu'elle est entendue de deux façons très très différentes. pour certains, au départ, la transition énergétique, c'était de réduire la consommation d'énergie et de voir comment on pouvait répondre aux besoins, mais avec des besoins plus sobres. Et la tendance actuelle est beaucoup plus de dire faut continuer de consommer, il faut de la croissance parce que ça créerait de l'emploi. Malheureusement, on voit que ce n'est pas du tout aussi mathématique que ça. Et il faut développer les énergies renouvelables en remettant le dossier nucléaire un peu en maintien de la tendance actuelle. La preuve, c'est qu'il y a 3 semaines a été complètement revue par le Sénat la question de réduire de 75 à 50% l'électricité française produite par du nucléaire. Et là, il n'y a plus de pourcentage, il n'y a plus d'échéance, parce que l'échéance était à 2030. Donc, moi, ça me semble important. Et ce qui ressort aussi nettement, je trouve, dans votre exposé, c'est que vous êtes très orienté vers des réponses technologiques. Alors, ça a du bon. Quand on est ingénieur, on est avec cette logique-là. Moi, j'aimerais que dans la formation d'ingénieur, il y ait un peu plus de psychologie comportementale, parce que le comportement des personnes, et c'était aussi un peu l'idée des deux questions des prédécesseurs à ce micro, peut permettre d'être à vivre correctement en consommant un peu moins. Combien d'appareils électroniques avons-nous, nous, dans notre maison, et combien il y a de chargeurs de téléphone ou d'ordinateurs qui restent des transos qui restent branchés en permanence?
Attendez, oui.
Non, mais c'est vrai qu'il faut poser une question.
Oui, mais si je pose cette question, c'est que de cette tendance à une vision de réponse technologique et pas comportementale, c'est parce qu'il y a 14 mois, vous êtes intervenu à la fac de Poitiers. Je vous ai demandé ce que vous pensez de Negawatt, le réseau Negawatt. Et vous m'avez répondu, leur défaut, c'est qu'ils ont une obsession de réduire la consommation. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que le défaut des ingénieurs du corps des mythes, c'est pas de maintenir cette orientation vers le nucléaire en France? Moi, quand ils seront prêts à prendre chez eux les déchets radioactifs, je les croirai.
Bon, alors, rapidement. Premièrement, sur les économies d'énergie, la réduction de l'énergie qu'on consomme. Dans les pays occidentaux, la tendance, elle est faite. On consomme ou on dépense moins d'énergie, beaucoup moins d'énergie, pour produire une tonne d'acier, une tonne d'aluminium ou une tonne d'engrais, qu'il y a 20 ou 30 ans, d'un facteur 2 ou 3. Donc la tendance, elle est faite dans les pays occidentaux. Au Japon, leur intensité énergétique a considérablement baissé, et donc ils vivent avec une consommation d'énergie qui est à peu près la même que la nôtre, mais avec un pays où la croissance est très faible, j'en conviens, mais où le niveau de vie, il est supérieur au nôtre. Bon, ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut changer les comportements. Mais on ne change pas les modes de vie par décret en un tour de main. Il faut des générations. Il faut s'habituer, effectivement, à des nouvelles villes, des nouveaux modes de consommation d'énergie, des nouveaux modes de transport. J'en conviens parfaitement avec vous. Ce n'est pas uniquement un problème technique. Mais vous ne pouvez pas le décréter, ça. Vous ne pouvez pas le décréter. Et toute l'histoire montre de l'énergie que ça a pris souvent des décennies. Il faut, par l'éducation, par, je dirais, les pratiques commerciales, les pratiques de transport. Et ça ne se fait pas en un tour de main. C'est ma réponse. Et ça se fera probablement, c'est pour ça que je dis, pour terminer, probablement que cette transition, elle nous amènera jusqu'à la fin du siècle. Et qu'il est utopique de dire, notamment dans la loi et les débats sur la transition énergétique, ben vous allez voir, hein, dans 10 ou 15 ans, on va diminuer de moitié la consommation énergétique. Moi, j'aimerais bien savoir comment.
Bonsoir. Je voulais poser une question qui revient plus à votre, disons, intervention. C'est de savoir, vous avez parlé un tout petit peu de la fusion nucléaire et vous n'avez pas après développé, savoir où ça en était, et parce que ça pourrait être quand même un grand progrès pour résoudre le problème de l'énergie.
Alors bon, j'ai fait des choix et puis on pourrait me reprocher de donner des réponses en termes scientifiques ou techniques. Bon, alors c'est vrai qu'on peut, on sait en laboratoire ou même à une échelle d'un institut faire ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire, c'est-à-dire que on fait fusionner deux atomes au lieu de faire leur fission. Bon, c'est ça qui fait marcher en particulier le Soleil. On sait le faire au niveau de gros laboratoires. Hein, et malheureusement, tous les 20 ou 30 ans, on nous dit, bah, vous allez voir, c'est dans pour 20 ou 30 ans. Et on le dit depuis, disons, 1950. Alors, il y a un programme international qui est en cours, je dirais, de mise en œuvre en France, à Cadarache, dans un centre du CEA, qui est complètement international. La Chine, les États-Unis, l'Europe, etc., y participent. Bon, avec l'idée, non pas de produire vraiment de l'énergie avec ça, mais en 2025 ou 2030, d'arriver à montrer la faisabilité technique. Bon. C'est pas certain. Et puis, ça réglera pas tout le problème, hein, pour répondre à ce que disait monsieur. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que et ça fabriquera de l'électricité dans des conditions qu'on connaît pas bien, avec un réacteur qui risque de coûter cher. Donc, c'est pas forcément une réponse. Et personnellement, j'ai des doutes sur la faisabilité technique.
Oui, encore une main. Il y a peut-être la place pour encore une question ou deux, mais pas beaucoup plus, parce que... Question rapide.
Oui, je trouvais que vous donniez des pistes intéressantes pour la production d'électricité. Et ma question, en fait, c'était par rapport aux pistes pour le transport et la pollution, et savoir s'il y avait des lobbies qui bloquaient l'émergence de nouvelles technologies, quoi.
Oui, on dit toujours qu'il y a des lobbies, les pétroliers qui s'opposent au solaire, même si un certain nombre de pétroliers investissent dans le solaire. Bon, c'est vrai que les entreprises pétrolières, elles travaillent sur leur cœur de métier, et qui est l'exploitation du pétrole ou du gaz et de le vendre. Bon, alors certaines sont pas idiotes. Elles disent, oui, mais alors 40 ans de pétrole, qu'est-ce qu'on fera après, hein, le pétrolier britannique BP, British Petroleum, qui avait récupéré avec la France, hein, je dirais, les restes de l'Empire ottoman en Irak, hein, il y a 10 ans, il voulait changer le nom de la société, pas le sigle, et l'appeler Beyond Petroleum. Bon, ça n'a pas duré. Hein. Bon. Alors, il y a des intérêts économiques qui jouent. C'est pour ça que je dis en conclusion, s'il faut, dans ma conclusion, même rapide, s'il faut une transition énergétique, on peut le souhaiter, il faut une organisation industrielle et sociale pour le faire. Hein, et ça ne se fait pas non plus en un tournement. Et on voit d'ailleurs d'autres lobbies comme Google, Microsoft, hein, qui veulent mettre les pieds dans l'énergie, si je puis dire. Bien sûr, ils ont besoin pour leurs ordinateurs de courant électrique, hein, mais aussi ils se disent ça, c'est un bon marché, parce qu'on va leur vendre du service, et à une échelle internationale. Donc là, il y a une organisation industrielle et sociale qu'il faut mettre en place. Ça a toujours été le cas, je dirais, dans le développement de l'énergie, sans remonter aux Grecs, hein, et aux Romains, avec l'exploitation du charbon puis du pétrole. Il y a eu des organisations sociales qui se sont mises en place avec des crises sociales et un coût humain en général qui n'était pas négligeable. Mais il faut des décennies pour le faire. Il faut des décennies.
Merci. Merci beaucoup encore à M. Papon. Il doit y avoir encore, je suppose, des questions rentrées dans l'assistance, mais ce n'est pas tellement étonnant. Après un exposé, il y a un blog, absolument. Après un exposé aussi riche.
Le dernier blog que j'ai mis il y a 15 jours porte sur la ville, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme économie dans la ville?
Merci encore. Merci à Mendes France de nous avoir permis d'avoir cette conférence. Et je vous rappelle que... Voie publique, c'est pas fini, ça ne fait même que commencer. Donc dépêchez-vous à aller aux prochaines manifestations. Vous avez tous certainement le programme dans la poche. Si vous ne l'avez pas, il faut le demander. J'espère qu'il y en a en stock. Et je vous souhaite une très belle soirée.